Vous écoutez France Culture.
Les lundis d'histoire, Philippe Levinas.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. L'historien est bien obligé d'avoir recours à l'écrit, aux archives, mais l'écrit est trompeur. Il ne reflète pas la réalité. L'histoire est comme un cône qui repose sur sa base, alors que les archives sont un cône qui repose sur sa pointe. Cette phrase est celle qu'a exprimée en septembre 1973 le grand historien, membre du Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Emmanuel Roy-Aldury, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Une vie avec l'histoire, mémoire oui. », avec le concours de Madame, Monsieur Nusseldeib. Emmanuel Roy-Aldury, bonjour.
Bonjour.
C'est un bonheur de vous accueillir aujourd'hui à l'Académie de l'Histoire. Alors, on va parler de vous avec Emmanuel Jousse, bonjour.
Bonjour.
Qui est docteur en histoire, spécialiste du réformisme en matière d'histoire politique.
Histoire politique.
Et Jean-Pierre Leroux qui va dire tout à l'heure un texte sur Saint-Simon, parce que, cher Emmanuel Roy-Aldury, vous êtes aussi intéressé à Saint-Simon.
Oui.
Votre œuvre est polyphonique. Elle a touché non pas à tout, mais à tout ce que vous vouliez. Donc, je veux bien partir, si vous voulez, du Languedoc, dans lequel vous avez eu, effectivement, au début, en 1963, le premier attachement, Histoire du Languedoc, publié au Presse universitaire de France. Mais je dirais aussi, aujourd'hui, vous êtes dans l'histoire des régions, 2001, et puis aujourd'hui, dans l'histoire de l'histoire dans votre vie. Vous avez aussi publié un itinéraire qui s'appelle Paris-Montpellier, qui est un livre très fameux qui m'a ébloui en 1982 quand vous l'avez publié, puisque vous racontez ce qui à l'époque n'était pas évident, votre vie. Paris-Montpellier, on aurait pu penser l'inverse, Montpellier-Paris. Mais vous, c'est Paris-Montpellier. Alors, c'est parce qu'en fait, vous avez des attaches qui sont plutôt normandes que méditerranéennes, quoi, Montpellier, c'est probablement la Méditerranée. Et que vous avez expliqué avec votre sincérité, votre causticité, votre vérité, qui vous étiez. Emmanuel de Roy-Aldury, la parole est à vous. Oui.
Alors, il y a peut-être un petit instant biographique, effectivement. Et ce qui m'a attiré à Montpellier, c'est une dame qui est toujours là.
Et vous voyez votre épouse.
C'est ça. Et donc, je pouvais difficilement, pendant quelques années au moins, quitter cette ville et ce Languedoc.
Une belle ville.
Où je suis, oui, c'est une belle ville,
un intéressante,
où je suis resté une dizaine d'années. Et donc, je me suis intéressé à un mot que je n'employais pas à l'époque, mais que j'emploie quand même maintenant, et qui va choquer certains, parce qu'il a l'air politique et militant, ce qui n'est pas mon cas du tout. C'est l'Occitanie. Bon, je m'empresse de dire que
l'Occitanie.
Ce mot est un peu ridicule comme ça, mais au fond, il y a la France, il y a le Pays d'Oc, le Pays d'Oc qui s'étend sur le tiers sud de la France, à l'exception de ce qu'on appelle les franco-provençaux autour de Lyon. Et aujourd'hui, cette langue vit encore par Mistral, mais on peut dire malheureusement qu'elle est morte sous les assauts des écoles de Jules Ferry auparavant. Et j'ai donc senti la différence, l'originalité de cette région qui s'exprime beaucoup par l'accent à l'époque, mais un peu moins maintenant, mais alors l'accent existe encore, et aussi de caractéristiques agricoles, urbaines, assez différentes.
Vous parlez de Jules Ferry, des assauts de Jules Ferry. Mona Ozouf vient de publier un très beau livre sur Jules Ferry, que vous avez peut-être lu, mais qui vient de paraître.
Oui.
Vous considérez que Jules Ferry a aplani ou au contraire construit ?
Non, Jules Ferry n'est qu'un chaînon. C'est-à-dire que la frontière fondamentale de la culture française, c'est-à-dire la ligne Saint-Malo-Genève, qui sépare, donc qui va de la Suisse à la Normandie, enfin, et qui sépare la France relativement alphabétisée, chez les hommes d'abord, dès le XVIIe siècle, Et jusqu'à ce que cette ligne soit effacée, justement, par Jules Ferry et surtout ses successeurs, en 1914, la France entière sait lire et écrire, ce qui est moins le cas aujourd'hui, et l'Allemagne aussi, et l'on lance les uns contre les autres des bataillons de jeunes gens parfaitement éduqués des deux côtés, allemands et français. Mais attention, c'est un travail qui a commencé, que Jules Ferry a terminé, mais qui a commencé bien avant lui, puisque dès la fin du XVIIe siècle, ou le début du XVIIIe, la ligne Saint-Malo-Geneviève existe, que les alphabétisés, ils sont certes encore, ils sont à peu près la moitié des gens de sexe masculin et moins des femmes, sont au nord de cette ligne, et que le reste, ce sont des gens également en partie alphabétisés, mais beaucoup moins. Et puis alors, ce sont aussi les frontières linguistiques, mais qui ne coïncident pas. Les langues d'oc, ce qu'on peut appeler la langue occitane, si on veut, parce que c'est un mot politique, malheureusement, c'est le tiers sud. La frontière Saint-Malo-Geneviève, c'est le nord instruit, le nord et le centre instruit de la France de Hille, et puis aussi quelques Flamands, quelques Alsaciens, bien sûr.
Emmanuel Jousse. Peut-être pour revenir sur vos différents ouvrages et aussi pour nuancer ce qu'exposait Philippe Le Vilain, d'une œuvre polyphonique, mais je me demande si on ne pourrait pas employer un terme qui permettrait de saisir une forme d'unité qui serait le terme d'enracinement. Quand, par exemple, vous publiez en 1966 votre thèse sur les paysans du Languedoc, quand vous publiez en 1967 un ouvrage sur le climat, déjà, il y a toujours cette idée du rattachement à un territoire, l'enracinement à un territoire, et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui court dans vos ouvrages postérieurs.
Oui.
Emmanuel Roy-Dury.
Oui, alors... L'école des annales, dont je suis membre, je l'apprends de cette manière-là, tandis qu'actuellement, les historiens plus jeunes, et je ne les critique pas du tout, ont tendance à en faire une histoire très culturaliste. Moi, c'est un enracinement linguistique. Non pas que, je suis normand, donc je n'ai pas de leçons à donner à ceux qu'on appelle à tort ou à raison les Occitans, mais disons que je suis très au contact... Par mes travaux, sinon par mon identité, qui reste normande ou parisienne, je suis très au contact de cette région des Languedoc, qui sont assez nombreuses, du soi-disant occitan, qui n'a jamais existé, puisque ce sont des dialectes, mais avec tout de même une glorieuse littérature des troubadours, une minuscule littérature occitane, mais qui n'est pas inintéressante, celle d'un romancier comme l'abbé Fabre au XVIIIe siècle, qui est le plus grand écrivain de langue d'oc, des apostrophes aussi, entre les troubadours et Mistral, et puis enfin les Mistraliens, qui ont quand même relevé le drapeau, en laissant tout de même Mistral, je crois, reste un assez grand homme. Mais évidemment, je n'ai pas qu'une appréciation littéraire. Je suis avant tout un historien du social, et au départ du social méridional, quitte à m'expandre, comme on dit, ou à m'étendre à des problèmes plus larges.
Le métier d'historien, Emmanuel Roy-Dury, enfin le territoire d'ailleurs, que vous avez publié en 1975, réédité d'ailleurs en 1978, en deux volumes, puisque vous parlez de l'Occitanie, donc qui est une sorte de territoire par définition, enfin par avoir une limite. Est-ce que cette notion de territoire a hanté votre vue d'historien?
Oui, d'une certaine façon, dans la mesure où je reste assez provincial, et j'ai écrit une histoire de France des régions. Le titre vaut ce qu'il vaut. Les régionalistes méridionaux m'ont reproché de mélanger ainsi la France qu'ils n'aimaient pas toujours et les régions. Mais je me suis expatrié vers d'autres unités linguistiques que je ne connaissais pas suffisamment. Le flamand, qui est la Flandre, qui a l'avantage d'avoir une entité linguistique qui est le flamand, mais aussi une extension vers ce qu'on pourrait appeler le Nord-Pas-de-Calais, qui lui est francophone. La Bretagne, c'est un peu semblable. L'ouest de la Bretagne est incontestablement celtophone, et ce ne sont même pas des Gaulois, puisque ce sont des gens du Pays de Galles, de ces régions d'Angleterre qui sont arrivées en Bretagne au 5e siècle ou 6e après Jésus-Christ sur leur radeau de granit conduit par Saint Colomban, et le radeau flottait quand même, et donc ils ont celtisé tardivement, au fond, puisque la Bretagne était latinisée jusque-là. Ils ont receltisé l'ouest de la Bretagne et ils ont donné donc un caractère particulier à cette région. Alors, les Languedoc, c'est évidemment ce que j'ai appelé le tiers sud. Il y a aussi les Basques, auxquels je me suis intéressé, qui sont une ethnie, dit-on même paléolithique. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais c'est ce qu'on dit couramment. Il y a les Catalans qui sont en réalité des Occitans ratés. Qu'on trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, mais qui prolonge l'orgueilleuse Catalogne d'Espagne, laquelle en général n'aime pas tellement les Castillans, sauf quand ils n'ont pas d'eau et qu'à cause de la sécheresse, ils sont obligés d'emprunter de l'eau à la Castille, qui n'en a peut-être pas davantage. Il y a le Corse, bien sûr. Alors ma femme étant demi-Corse, évidemment, je dois garder un respect conjugal, et je les apprécie, malgré leur évolution. Alors, il y a cette entité très étrange qui s'appelle le franco-provençal. Ce sont des formes de Languedoc, de Languedoc, d'apostrophe OC, qu'on trouve surtout dans la région lyonnaise, en Suisse romande, qui n'est pas encore en France, nous n'avons pas encore réussi à rattacher ce pays, et puis un peu vers le sud. Qui c'est pas vraiment un mélange de français et d'occitan, c'est une sorte d'occitan un peu particulier avec quand même pas mal de mots français. Et puis il y a évidemment l'alsacien, faut-il dire le mosellan, avec des racines, enfin des racines, une sorte des langues alémaniques ou franciques. Donc je me suis intéressé à ces régions qui du reste sont en voie de disparition, quitte à renaître un jour si le. En cas de résurrection.
Je
ne
voudrais pas que les auditrices et les auditeurs pensent ou pensassent, comme on devrait dire, que toute votre œuvre, Madame Roduri, est fondée sur des réflexions considérant les langues. Doc, Doyle, et de lignes entre Saint-Malo, Genève, Nantes et Genève. L'historien que vous êtes et qui aujourd'hui a l'obligeance de venir au livre d'histoire a fait aussi autre chose, même s'il y a là-dessus, comment dirais-je, un des éléments très importants de votre réflexion immense. Au-delà de ça, vous avez écrit aussi une histoire de France, vous avez écrit sur les Plater, on va en parler, et vous intéressez quand même beaucoup, alors je dirais, au monde paysan, au climat. Alors je sais que vous n'aimez pas quand on vous parle du climat, parce qu'on va en parler. Vous ne considérez pas comme un climatologue, même si vous avez écrit des choses très pertinentes là-dessus. Donc on va, si vous voulez, un peu monter au-dessus. On va dire quand même un mot de Montaillou, village occitan. Parce que c'est un livre charnière dans votre œuvre, qui a eu un succès fou, qui est traduit en japonais, en chinois, en circassien.
Ça n'est que 250 000 exemplaires, il ne faut pas exagérer.
Emmanuel Jousse. Oui, c'est avec Montaillou, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend cette idée d'attachement au territoire, à des territoires peut-être différents, d'enracinement aussi, parce que cette idée permet à la fois de comprendre l'extension extraordinaire que vous donnez à la chronologie des ouvrages que vous écrivez. Vous êtes plutôt moderniste, mais en fait, vous vous intéressez aussi au Moyen-Âge et vous allez jusqu'à la période contemporaine, voire ultra-contemporaine. Et justement, parce que vous vous intéressez à cet enracinement, vous êtes attentif à ce qu'on appelait la durée longue, une histoire qui se déroule sur plusieurs siècles. Et en même temps, ça vous permet aussi de vous intéresser à des choses très concrètes, très particulières, ce qu'on a pu appeler aussi la micro-histoire, sur des cas très particuliers. Et il me semble que Montaillou serait plutôt dans cette perspective-là.
Alors, je suis... Montaillou est un livre qui a aussi une histoire. Je suis parti de Jean Duvernois, que j'appelais volontiers un employé du gaz. Mais c'était violent et désagréable. En réalité, c'était un avocat de l'EDF. Et il a noyé Tignes. Il est mort maintenant. Il a noyé le village de Tignes et on a porté des écriteaux autour de ce village avec Duvernois au poteau. Enfin, vous voyez le genre. Et je pense qu'il a voulu se rattraper en sauvant un village. Et il a sauvé donc Montaillou grâce au registre de latin de Fournier. Et il se trouve que je suis bon latiniste, pas formidable, mais enfin, parce que j'ai recagné, j'étais nul en thème, mais j'étais bon version. Et le latin de l'évêque Fournier, qui nous a livré Montaillou, n'est pas un latin très difficile. J'ai osé franchir la barrière sacrée qui sépare le Moyen-Âge. Et il y a pas mal de gens en ont été mécontents, mais ils n'ont pas osé le dire, qui sépare le Moyen-Âge de l'époque moderne. C'est-à-dire que c'est soit 1492, je ne sais plus, Colomb doit mettre le pied quelque part par là.
Non, c'est les guerres d'Italie.
Ou c'est 1453, l'invention de l'imprimerie. Et moi, je me suis dit, tant pis pour mes chers collègues, je vais faire du Moyen-Âge. Ils n'ont pas été contents, mais ils n'ont pas osé le dire, qu'ils étaient mécontents, parce que grâce à ma bonne connaissance du latin, j'ai pu accéder à ce registre. Or, je rends hommage à Jean Duverdois, qu'il a publié et qui a été ma source pour Montaillou. Je l'ai trouvé par hasard. Un jour, je sortais de la... En 68, mais ça n'a rien à voir avec 68. Je sortais de la Sorbonne. Je vois un petit livre aux presses universitaires. L'Inquisition n'a pas mieux. Moi, j'achète ça et tout d'un coup, je suis ébloui parce que Jean Duverdois, et je lui rends hommage quand même, ce cher homme avocat, Jean Duverdois avait compris qu'il y avait des dialogues. C'est-à-dire que sous la lourdeur de l'Inquisition, on avait des dialogues. Des dialogues, non seulement entre l'inquisiteur
assez difficile, on connaissait
peut-être un dialogue musclé, là.
Ça, oui, musclé, oui.
Mais aussi des dialogues entre les gens de l'Ariège. Bon, ça m'a un petit peu trotté pendant quelques temps dans la tête. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais centrons ça sur un village. Et ce mot de Montaillou, mons alionis, mons alio ou alionis en latin, a surgi. Et depuis longtemps, je m'intéressais aux monographies de village, qui était une spécialité américaine sur un village du Vaucluse, je crois.
Oui, et, c'est Jules Weber le premier qui a fait
oui,
ça.
Oui, et une spécialité parfois française, quoiqu'à un moindre degré. Et j'ai compris que dans l'immense richesse du manuscrit latin en trois volumes de l'évêque Jacques Fourdier, il y avait au fond non pas un village, mais un département. L'Ariège. L'Ariège, c'est-à-dire le comté de Foix. Alors, je trouvais qu'il y a une histoire départementale, surtout que les départements n'existaient pas à l'époque, c'était un peu trop vaste pour moi. Et je me suis bordé à ce village, mais en fait, en l'étendant, on lui donne, c'est un Montaillou sans frontières. Alors, le succès complètement. Alors, Pierre Nora m'a dit, écoute, bon, on en vendra 2000, et puis on te fera voir un prix. Ce qui était extrêmement gentil, puisque c'était un très bon ami. Et puis alors, le succès est venu, tout à fait inattendu, et j'étais même un peu gêné vis-à-vis des médiévistes. Enfin, ils me l'ont peut-être pardonné, je ne sais pas.
C'est Village Occitan qui a fait le privilège du livre. Alors, qui d'ailleurs, par certains des étudiants de 68, cher Emmanuel Laura Durie, ont été caricaturés en Village Occitan.
Je vous en prie, bien. Village Occitan, j'ai cherché un adjectif. Alors, j'ai quand même eu quelques ennemis qui m'ont dit qu'il fallait appeler ça village pyrénéen.
Très ennuyeux, ça.
Mais je pense que j'ai cherché comme unité linguistique ce qu'il y avait de plus proche, et j'ai trouvé effectivement la langue d'oc, qui caractérise bien ce... Parce que ça n'est pas à l'époque, c'est pas un village français, bon. C'est pas exactement un village catalan, donc j'ai choisi ce titre qui est resté. Mais alors, les traductions anglaises... Alors, la traduction anglaise n'est pas bonne. J'ai une sympathique traductrice, mais ils l'ont énormément mutilé. Mais ils ont appelé ça assez bête. Bon, ben, je ne veux pas attaquer cette traduction. The Promised Land of Error. La terre promise de l'erreur. D'abord, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout une erreur. C'est une vérité sinon théologique, du moins villageoise.
Alors, avec Montaillou, on est en train d'aborder... une évolution de la discipline vers ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie historique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette étape importante de l'historiographie française, de la façon dont on écrit l'histoire et le mouvement dans lequel ce livre-là en particulier s'est inscrit à son époque ?
Ben, malheureusement, je suis un peu égocentrique et l'anthropologie historique, je l'ai commencé de façon beaucoup plus prosaïque par les archives militaires. C'est-à-dire la mensuration des conscrits, la taille assez petite, les régions, la liste à Genève dont je parlais tout à l'heure. Et c'est par là que je suis venu à l'anthropologie historique. Mais étant aux États-Unis, je me suis aperçu que l'histoire d'un village pouvait avoir un intérêt. Et après avoir feuilleté dans tous les sens le registre latin de Jean Duvernois, je pense que de penser le plus simple était que de me concentrer sur un village, ce qui est typiquement, je crois, une démarche anthropologique, quoique insuffisante. Mais sinon, L'anthropologie, pour moi, c'est l'anthropologie des langues, j'en ai peut-être déjà parlé quelque peu, ou des mesures anthropométriques, enfin des choses assez prosaïques. Et puis, brusquement, avec ce document, je suis tombé sur quelque chose d'éblouissant.
Alors, vous avez écrit aussi à l'intérieur d'une œuvre, une anthropologie du conscrit français.
C'est ça.
Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est en 72 en plus, ce qui est quand même assez nouveau, parce que la France est assez mutilée en 72. C'est-à-dire qu'elle sort d'une grande guerre, enfin de plusieurs grandes guerres, l'Indochine, l'Algérie, etc. Et le conscrit, dont personne aujourd'hui ne sait qui c'est, que c'est qu'un conscrit. C'est-à-dire quelqu'un qui est inscrit à 18 ans sur une liste qui stipule...
Sauf si Poutine fait l'imbécile, on sera obligé
de faire. Non, mais ça,
c'est pas, j'espère.
Poutine ou pas, personne ne sait plus ce qu'est un conscrit, c'est-à-dire quelqu'un qui est inscrit avec les autres sur une liste départementale, au demeurant, Emmanuel Oraduri, stipulant qu'il se présente au conseil de révision pour que l'on décide si oui ou non il est apte au service militaire, nous sommes d'accord. C'était quand même une des grandes épreuves, une grande étape de la vie. Être conscrit, c'était en général avec le baccalauréat. Le baccalauréat, on pouvait l'avoir à 16 ans, je me dis. Enfin, en tout cas, c'était en tout cas la majorité à 18 ans. Voilà.
Au fond, je suis parti d'un point de vue. Je suis arrivé à Montaillou avec une histoire peut-être plus concrète, mais je suis parti d'une histoire quantitative. Et j'étais d'autre part le directeur du centre de recherche historique, donc j'avais l'école des hautes études en sciences, qui ne s'appelait pas comme ça encore, mais c'était l'école des hautes études.
C'était Bourdel.
Et j'étais passionné un peu trop peut-être par l'histoire quantitative. Et j'ai cherché un terrain d'étude. J'étais théoriquement 17e-iste, 18e-iste, comme on dit dans le jargon local.
Je vous interromps. Est-ce que vous croyez à ces frontières séculaires qui n'existent pas d'ailleurs dans certains pays comme l'Italie ou l'Allemagne, qui sont absolument en France
considérés? Non, mais ils ont créé des Alsace-Lorraine quand même. Le monsieur qui s'occupe du Moyen-Âge, de ce soi-disant Moyen-Âge du moins, sans le feu vert de la commission consultative compétente, c'est pas très bien vu. Et je le sens encore, mais franchement, je m'en fiche, quoi, complètement.
Il n'est pas nécessaire de considérer. Vous savez qu'en Italie, on considère très bien que le XXe siècle commence comme 1915.
Oui, alors là, j'ai...
Bon, alors en France, on considère que le XXe siècle commence en 1789. Vous
oui,
savez ça.
Mais en Angleterre, je ne sais pas si ça a un grand sens.
En 1688.
Mais moi, si vous voulez, en gros, je suis parti de l'histoire du Languedoc par les cadastres, les compois, que m'avait indiqué un ami géographe, Raymond Dugrand. Et comme ces compois, ces cadastres qui étaient de lecture assez facile en latin ou en Languedoc, etc., ou en français, car le français arrive très tôt dans le midi, je partais normalement du XIVe siècle et j'arrivais au cadastre napoléonien que j'ai parfois regardé. Donc très vite, je suis parti sur l'idée de faire 400 ou 500 ans d'histoire. Il est vrai que je ne suis pas un médiéviste professionnel, mais enfin, étant latiniste, ça allait quand même. Et j'ai donc fait une thèse qui va, les paysans de Languedoc, qui va du XVe siècle, disons, c'est-à-dire un peu avant la peste noire, ou en tout cas après, jusqu'au 18e et par moments jusqu'au 19e. Donc là-dedans, j'ai pu tailler largement et j'ai pu en particulier aller jusqu'en 1830, 1850 grâce aux archives de la conscription.
Et en faisant cela, vous êtes inscrit aussi dans la perspective renouvelée d'une école des annales que vous avez évoquée précédemment. Et dont vous avez suivi aussi toutes les évolutions à travers, vous parliez de la création de l'HESS, vous parliez aussi...
L'école pratique des hautes études en sciences sociales, disons-le.
L'école des hautes études en sciences sociales, exactement. Et puis aussi vous parliez du passage de cette histoire quantitative à une histoire plutôt de ce qu'on appelait les représentations ou histoire des cultures matérielles.
Moi je sais pas trop ce que je suis en religion, il faudrait que je demande à notre ami qui est ici, mais en histoire je suis assez volontiers matérialiste. Enfin, il ne faut pas exagérer cette idée. Et donc, partant du Languedoc, de la culture matérielle, j'ai découvert au passage le climat avec les dates de vendanges et l'histoire évidemment régionale, avec une incompétence inévitable.
Innotable.
Oui.
Et notoire.
Ma véritable vocation, c'est une histoire, pas seulement rurale, mais essentiellement rurale, qui est longue et qui part du plein démographique du XIVe siècle, disons des années 1300-1320, où on a déjà une France à 19 millions, dans un hexagone à 19 millions de personnes, de suivre l'immense catastrophe dont les historiens ont une idée, mais pas tellement les autres, qui, à travers essentiellement la peste noire, mais quand même les guerres anglaises et un peu les famines, nous amène à un hexagone de 9 ou 10 millions d'habitants. Puis ensuite, on remonte aux 20 millions, vers 1530-1520, et on y reste jusqu'à 1715, à partir de quoi ça s'élance. Donc là, c'est pourquoi j'ai pu parler d'histoire immobile, malgré cet énorme trou de la peste, ou des pestes, cet énorme trou d'un hexagone à 9 millions de personnes. Où du reste, on vivait bien, après des misères épouvantables. On avait de la viande, on buvait du vin rouge, enfin, on n'était pas malheureux. Mais au terme quand même de catastrophes démographiques considérables qui sont recompensées à la suite. Des pestes qui intervenaient chaque année dans l'Hexagone, mais pas chaque année dans chaque province. Et puis qui peu à peu s'espacent et laisse repartir la croissance démographique. La récupération, car c'est une récupération à partir de 1450-60.
Et selon vous, cette stabilité démographique serait due à quel facteur
Ce qu'il faut expliquer, c'est pas la sécurité, c'est pas la stabilité, c'est la croissance. C'est-à-dire que je crois qu'on a dû atteindre ce niveau des 19 à 20 millions vers le 13e siècle. Et avec des catastrophes intermédiaires, on y est resté jusqu'en 1715. Alors pourquoi est-ce que c'est reparti ensuite? C'est la disparition peut-être de la peste, et puis quand même une élévation assez générale du niveau de vie. Mais disons que c'est un objet, l'hexagone de 20 millions de personnes, qui est commode, qui est contrôlé par une mortalité récurrente, des épidémies qui reviennent assez régulièrement, une disparition de la peste par le mariage tardif des femmes, chères à Pierre Chaudu. Il paraît qu'on en exagère l'importance. Un mariage tardif entre 22 et 25 ans qui permet d'avoir un ou deux enfants de moins. Et puis par des épidémies, oui, les guerres quand même.
C'est-à-dire qu'une des questions qui vous préoccupe dans votre ouvrage, qui était aussi celle de Pierre Chaudu, qui était plutôt préoccupé par le Big Bang, est celle de la maîtrise de la démographie. Il y a des aléas, et il y a aussi ce qu'on peut appeler une politique. L'un et l'autre, d'ailleurs, vous avez été confrères tous les deux à l'Académie des sciences politiques, avaient la même préoccupation, à savoir comment se fait-il qu'une population est à la fois florissante et en même temps peut-être brusquement amoindrie à l'époque, je veux dire, dans l'époque que vous gouverniez l'un et l'autre, du 17e, 18e, 19e, 20e siècle. Aujourd'hui, tout a changé. Puisqu'on parle même de l'euthanasie des mineurs. Bon, mais ce qui est vrai, c'est ce qui intéresse votre œuvre, bien alors, c'est la vie. Votre œuvre est une œuvre sur la vie. C'est un immense hymne à la vie, aux paysans, aux territoires, aux rurales, encore plus qu'aux politiques.
Le politique, j'y suis venu un peu. Et...
Mais vous êtes quand même issu d'un milieu qui a fait de la politique, le militaire.
Oui, puis alors il y a l'histoire de Vichy qui s'est interposée dans ma famille, compensée ensuite par la résistance. Enfin, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. Mais
votre père a été ministre de l'Agriculture très peu de temps d'ailleurs.
C'est-à-dire, je crois que je suis quand même le fils de mon père, j'en suis assez persuadé.
Je crois que nous sommes tous le fils.
C'est-à-dire que c'est à l'origine une famille qui n'est absolument pas paysanne, sûrement pas, ni même vraiment agricole, mais qui est une famille. Je descends d'un prêtre défroqué
Oui, ce que vous racontez. Je rappelle le titre de votre livre, Une vie avec l'histoire, mémoire, audition Talendier.
Oui, c'est ça. Donc, ce prêtre a dit, donc, vers 1780, 1913, je crois, oui, par là, a dit non, décidément, la religion, c'est pas le truc actuellement, c'est pas ce qui s'impose. Et il a défroqué, mais il s'est marié, il a attendu que son évêque se marie quand même. Et à partir de là, il a engendré, donc, je sais pas, 2 enfants, et ainsi est l'origine de la famille, qui s'appelait le roi de la Durie, mais le 2 était postiche, enfin, c'était pas du tout une famille noble. Et la famille a caché cette apostasie d'un prêtre, et je ne l'ai appris que récemment, enfin, il y a quand même 10 années, par un monsieur qui, à la BN, m'a dit « Venez voir ça », et qui me montre l'horrible vérité. Et j'en ai parlé à la famille, qui est très catholique et qui n'a pas tellement apprécié. Mais, alors, nous avons eu la revanche, c'est mon grand-père, qui était militaire, officier, commandant, et qui a, comme on disait à l'époque, brisé son épée, c'était l'expression, pour ne pas vider un couvent de bonnes sœurs, lors des inventaires en 1902. Et c'était l'identité de la famille, c'était véritablement le héros de cette famille catholique. C'était sûrement un homme courageux, mais le malheureux est resté a été repris comme commandant, et tous ses copains étaient généraux en 14, ce qui donc a dû le faire un peu souffrir, je pense.
Vous avez travaillé, c'est presque un excursus au milieu de cet entretien, sur Saint-Simon.
Oui.
Il y a dans ce livre, Une vie avec l'histoire, des pages inattendues, qui fait partie de ces auteurs, de ces écrivains, assez facilement, témoins, écrivains, par conséquent, qui disent des choses qui paraissent de l'ordre de la chronique et qui relèvent ensuite de l'ordre de l'analyse, qui peut même être anthropologique, stylistique, tout ce que l'on veut. Bon, ouais, sur ce que j'appelle les fonds inépuisables du génie. Donc on va écouter un fragment de la mort du grand dauphin, puisque Saint-Simon est un mémorialiste qui exprime beaucoup de choses sur lesquelles nous ferons tous les trois un commentaire ensuite.
Tous les assistants étaient des personnages vraiment expressifs. Il ne fallait qu'avoir des yeux, sans aucune connaissance de la cour, pour distinguer les intérêts peints sur les visages ou le néant de ceux qui n'étaient de rien. Ceux-ci, tranquilles à eux-mêmes, les autres, pénétrés de douleur ou de gravité et d'attention sur eux-mêmes pour cacher leur élargissement et leur joie. Là, dans la chambre et partout l'appartement, on lisait apertement sur les visages. Monseigneur n'était plus, on le savait, on le disait. Nulle contrainte ne retenait plus à son égard et ses premiers moments étaient ceux des premiers mouvements peints au naturel et pour leur affranchi de toute politique, quoiqu'avec sagesse, par le trouble, l'agitation, la surprise, la foule, le spectacle confus de cette nuit si rassemblée. Les premières pièces offraient les mugissements contenus des valets, désespérés de la perte d'un maître, si fait exprès pour eux et pour les consoler d'une autre qu'ils ne prévoyaient qu'avec transissement et qui, par celle-ci, devenait la leur propre. Parmi eux, s'en remarquaient d'autres, de plus éveillés de gens principaux de la cour, qui étaient accourus aux nouvelles et qui montraient bien, à leur air, de quelle boutique ils étaient balayeurs. Plus avant commençait la foule des courtisans de toute espèce. Le plus grand nombre, c'est-à-dire les sots, tiraient des soupirs de leurs talons et, avec des yeux égarés et secs, louaient Monseigneur, mais toujours de la même louange, c'est-à-dire de bonté, et plaignait le roi de la perte d'un si bon fils.
Très beau texte, parce que oui. Soupir de leurs talons, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Emmanuel Radurie.
Ben, je crois que ça a été résumé à propos de l'enterrement, justement.
Il y a d'autres épisodes
d'un académicien, d'un de nos grands écrivains, j'ai vu à cette inhumation, les prostates étaient peintes sur les visages. Mais, bien. Mais. Oui, Saint-Simon, c'était un...
Et pourquoi est-ce que vous êtes venu vers Saint-Simon?
Parce que ce sont des...
Entre le territoire des paysans, le pays de Languedoc, Montaillou, au village occitan, et Saint-Simon, il y a quand même la cour.
Alors...
Et vous parlez beaucoup de la cour dans votre livre.
L'origine de la chose... Bien, je m'intéressais à la cour, puisque je suis évidemment historien de la, de la monarchie, de l'Ancien Régime. C'est ma femme a une maison autour de Grenoble. Nous nous arrêtons chez un bouquiniste et j'achète des extraits de Saint-Simon. Je connaissais pas trop mal Saint-Simon, mais enfin, c'était loin de mes idées, de mes habitudes, du moins. Et je vois des extraits de Saint-Simon paru chez Flammarion, il y a ça une quarantaine d'années peut-être. Et je suis évidemment fasciné, le choix était excellent, car dans Saint-Simon, il y a parfois des choses ennuyeuses. Et ma première réflexion sur Saint-Simon a été un très beau texte de Saint-Simon sur les cabales de la cour. C'est-à-dire,
La cabale, c'est-à-dire les complots?
Non, pas les complots, les factions.
Les factions, d'accord.
Les factions de la cour. Et il distingue trois cabales et qui sont généalogiques. La cabale de Madame de Maintenon, qui est en fait l'épouse non présentée comme telle, enfin, un mariage, tout ce qu'il y a de plus légitime. Alors, Madame de Maintenon, enfin, c'est surtout Louis XIV, tout simplement, c'est le mari. Enfin, Madame de Maintenon, qui n'est pas auteur de la révocation, quoi qu'on ait dit, mais qui est quand même auteur de persécution contre les auteurs A-U-T-E-U-R-E, comme on dit maintenant.
Non, A-U-T-E-U-R, comme on dit maintenant.
Qui est auteur de persécution contre les jansénistes. La deuxième cabale, c'est justement celle de Monseigneur, qu'on fait généralement passer pour un imbécile, le fils de... Et qui a quand même gagné une bataille, je ne sais pas
le
si...
Grand dit, dauphin.
Le grand dauphin. Et qui n'a aucune personnalité intellectuelle. Il y a des lords et des princesses lorraines, etc. Et puis la troisième cabale, qui est passionnante, c'est celle du petit-fils, le duc de Bourgogne, qui lui-même n'est peut-être pas un génie, mais qui est entouré de gens remarquables, les ducs de Chevreuse et de Beauvilliers. C'est une cabale intellectuelle, Saint-Simon lui-même, etc. Et il y a une merveilleuse analyse des cabales sur un axe généalogique. Alors, je vais certainement beaucoup vous choquer, mais j'ai retrouvé ces cabales. Alors, surtout, ne vous évanouissez pas, je vous en prie. Avec M. Le Pen, sa fille et, je crois, une nièce qui doit être de la troisième génération et qui a été candidate quelque part.
Donc, je pense qu'il y a là... Jeune députée, oui.
Oui, il y a l'idée des trois générations qui est dans Saint-Simon, et qu'avec beaucoup d'efforts, on peut retrouver, ou tout simplement dans les familles royales, sans aller nous occuper d'un homme politique si lointain de cette période.
Oui, les sources là.
Dans les familles royales, on a assez fréquemment les trois générations qui coexistent et qui sont à la tête de factions différentes. La faction, disons, absolutiste, pour simplifier, de Louis XIV, la faction pas grand-chose du fils, et surtout la faction libérale, un peu socialiste, avec Fénelon quand même, socialisante, et pacifiste du groupe de Fénelon et des autres, et qui, au fond, est récupéré ensuite par Philippe d'Orléans, par la Régence, avec une politique de monarchie, certes absolutiste, mais quelque peu libéralisée, qui va durer d'une façon ou d'une autre jusqu'à la Révolution française, avec tantôt des phases plus absolues, tantôt des phases plus libérales. J'en pense, par exemple, à Choiseul.
Oui. Alors, le problème, c'est que vous dites socialiste, libéral, tout ceci ne va pas très bien ensemble.
C'est Fénelon, je parle de socialisme utopique.
Vous pensez que Fénelon, qui a fait l'éducation, en fait, du grand dauphin...
Du petit dauphin, je crois. C'est Bossuet, le grand dauphin, et Fénelon, le duc de Bourgogne.
Vous avez raison. Ibn Ajous.
Ce qui est intéressant...
On est en monarchie, maintenant.
Oui, mais ce qui est intéressant...
On va arriver vers Jaurès, peut-être, finalement.
C'est un méridional.
Que je ne suis pas... Dans ce que vous expliquez des cabales de la cour, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on retrouve, mais ça va être mon idée fixe de cette émission, c'est l'idée d'enracinement. Le fait que vous les situiez dans un axe généalogique, ça donne une continuité à ce qui, normalement, serait plutôt considéré comme l'écume de la vague, c'est-à-dire des alliances un petit peu stratégiques entre des groupes qui se trouvent d'accord sur un intérêt particulier, mais se séparent aussitôt que cet intérêt.
Mais alors là, on avait la commodité que Saint-Simon, avec son génie d'écrivain, a analysé des trois générations. Mais la pensée saint-simonienne sur la cour va bien au-delà, et à mon avis, et c'est ce qui, les trois cabales ne m'ont inspiré que pour un article, un texte que j'avais fait du temps où je fréquentais beaucoup, voilà, un excellent ami, Maurice Duverger, qui s'intéressait justement à la politologie, comme chacun sait. Mais au-delà de tout cela, c'est la pensée de Louis Dumont qui m'a intéressé. C'est-à-dire que mon Saint-Simon est inspiré presque entièrement, il reprend cette histoire des cabales généalogiques, mais il est essentiellement inspiré de la pensée de Louis Dumont, Homo Hierarchicus. Et j'avais fait un premier article où je présentais mon analyse à la Louis Dumont, je l'ai portée respectueusement à Louis Dumont, qui m'a dit « c'est amusant ». Bon, j'étais un peu vexé, alors j'ai fait un livre, et là, quand même, il a été beaucoup plus positif, et puis il est mort 8 jours après, et ça a été vraiment, on peut dire, un de mes seuls lecteurs qui m'a bien compris, mais il n'a pas survécu. Donc c'est la pensée de Homo Hierarchicus, c'est au fond la pensée indienne, quoi, Saint-Simon. Une pensée qui est totalement étrangère à l'égalitarisme et qui tire ses origines, non pas de l'indianisme, dont Saint-Simon ne connaissait rien, peut-être quand même de quelques réflexions...
De la notion de caste.
Pardon ?
De la notion de caste.
Oui, mais oui. Plutôt de caste, si l'on veut, quand on analyse l'Inde, mais de hiérarchie assez très serrée, avec donc inégalité et l'un des rares...
Inégalité ou répartition ?
Une des rares corrections, c'est l'hypergamie féminine. C'est-à-dire que, comme ces poissons d'eau douce qui remontent les rapides, les personnages qui, essentiellement, dans l'analyse saint-simonienne, remontent les rapides de la hiérarchie, ce sont les femmes. C'est par la possibilité d'un mariage à plus haut niveau, qui est procuré soit par la beauté de la dame, soit aussi par sa dot importante, et qui permet à l'extrême limite à une fille de marchand d'épouser un aristocrate.
Pardon. Elle change de nom.
Elle change de nom et elle devient... Enfin, prenons par exemple, évidemment, c'est pas exactement de l'hypergamie. Les filles Colbert qui épousent le duc de Beauvilliers et le duc de Chevreuse, qui sont deux personnalités libérales de la cour.
Emmanuel Roy-Dury, vous dites dans votre entretien, Malthus est aujourd'hui banalisé. Très souvent, j'ai entendu parler de Malthus, sur lequel d'ailleurs on dit beaucoup de bêtises, dont je lis. Mais à l'époque, il ne faisait pas jeu égal, tant s'en faut avec Marx.
Oui, alors Malthus, je crois, c'est quand même le très grand penseur, puisque sa théorie de la population qui est limitée par les subsistances est excessive, car il n'y a pas que les subsistances, bien sûr. Mais il est certain que la population arrive à des plafonds qui sont déterminés par les guerres, aussi, qui créent soit par le désastre des comportements meurtriers des soldats vis-à-vis des civils, soit tout simplement par la fiscalité, qui arrive à une limitation, à un plafond de population, et les épidémies, évidemment. La peste, mais aussi beaucoup d'épidémies moins visibles et tout de même très importantes. Donc, moi, mon Malthus à moi, c'est un personnage d'une démographie qui connaît des périodes d'ascension fulgurante, mais qui est ensuite limitée non seulement par les subsistances, comme le dit Malthus de façon trop simple, mais par les guerres et les épidémies. Et la pensée de Malthus...
Mais c'est un équilibre démographique presque naturel, selon vous.
Ben, naturel, si vous voulez, mais enfin, il faut encore des guerres, des épidémies. Attention, la population, disons, de la Gaule qui en vaut une autre... Étant, peut-on citer des chiffres, je ne sais pas, 5 millions, je dis au hasard, 5 millions de Gaulois pour la Gaule pré-romaine, peut-être 10 millions s'appliquant beaucoup et encore avec la fin de l'époque romaine, rechute à peut-être 5-6 millions avec les invasions, montée quand même à 19 millions vers 1300 et puis une chute à 9, une remontée à 20, et enfin les 40 millions de Napoléon III et qui vont se bloquer et qui ne font pas jeu égal avec l'Allemagne, dont donc le service de 3 ans en 14 et les allocations familiales en 1900, je sais plus combien, 38 peut-être.
Alors, on va aborder un chapitre que vous n'aimez pas, parce qu'on dit que vous êtes spécialiste, qui est le climat.
Je l'aime beaucoup.
Non, vous dites que là. Alors, je lis page 178. L'une de mes intuitions, faut-il dire bergsonienne, concerne en effet l'histoire du climat, climatologie historique envisagée pour l'ensemble de notre deuxième millénaire et pour les débuts du troisième. Ce que j'apprécie, entre autres, ça c'est très important, quant à l'histoire climatique, c'est que celle-ci n'est ni de gauche, ni de droite.
Ouais, c'est vrai.
Alors, quand on parle de vous, alors vous avez écrit, on a essayé d'en parler depuis le début de cette émission, les paysans, le territoire, la langue, la région, etc. etc. Et on dit surtout, Laurent Ladurie, c'est l'homme du climat. Il va nous prédire le climat comme Louis Baudin à RTL le matin. Louis Baudin, on me dit 30 degrés à Colmar.
Je t'en prie, je vous en prie.
Parce que vous avez parlé des vendanges, au fond. Si on pouvait résumer un peu votre carrière, votre itinéraire et votre génie, je parle en sens propre, c'est que c'est l'observation du terroir qui vous a conduit vers l'observation des idées et la définition des grands thèmes.
Oui, voilà. Alors, en réalité, ça devait être, je ne sais pas, je devais avoir...
Je suis désolé, mais comme c'est une émission dans 10 minutes, vous avez 10 minutes pour le climat.
Je vais essayer d'aller vite.
Non, vous avez le temps, au contraire.
Oui. Il y a peut-être une trentaine d'années, je ne sais pas, je tombe un jour sur l'article d'un grand météorologiste, l'un des grands météorologistes français, vers 1880, Alfred Angot,
oui.
ANGOT, vous connaissez
oui,
ce monsieur, et sur les dates de vendanges. Et complètement ébloui, parce que faisant l'histoire rurale, je me disais, il faudrait quand même que j'ai quelques données sur le climat. Bon, on a des séries thermométriques, et c'est très important, et vous les connaissez comme moi,
non,
c'est la série thermométrique anglaise, mois par mois, année par année, de Gordon Manley, qui est l'œuvre d'un météorologiste, et qui commence en 1659, pour chaque année, jusqu'à nos jours, et qui est vraiment absolument fondamentale. Et maintenant, nous avons, je vous annonce, c'est un scoop que vous connaissez quand même, nous avons la série météorologique française de mon ami M. Daniel Rousseau, qui nous battons les Anglais d'un an. Nous commençons en 1658, enfin c'est lui surtout, et nous avons donc une série thermométrique française tout à fait capitale et qui nous aide pour comprendre les famines, puis comprendre le réchauffement récent. Alors je crois qu'il ne faut jamais oublier, quand on parle d'histoire du climat, qu'on a des séries thermométriques, qui par des calculs, qui sont très anciennes, qui remontent donc à Louis XIV. Il y a ensuite les dates de vendanges. Ça, c'était l'un des grands chocs de ma vie. En lisant Alfred Angot, je voyais que par les dates de vendanges, on peut connaître la température approximative, bien sûr, d'avril à septembre. Pour chaque année, et actuellement, les séries les plus anciennes remontent au XIVe siècle pour la moitié nord de la France et sont continues grâce à des gens, évidemment, un peu jeunes comme moi, qui sont arrivés à ce résultat. Il y a aussi, chose qu'on oublie un peu, la qualité du vin. C'est-à-dire, la date de vendange vous donne en gros la température qui va d'avril à septembre pour chaque année. Mais la qualité du vin, c'est qui est bien connue par des quantités de séries, les gens appréciaient, elle sait bien. C'est quelque chose qui vous renseigne sur les mois d'août, le mois début de septembre, le mois d'août, peut-être le mois de juillet. Et on a des séries de qualité du vin maintenant qui remontent au XVIIe siècle. Donc on est très armé. Puis il y a les glaciers qui sont évidemment passionnants. Et puis la pluviométrie. Donc à partir de là, on peut.
Emmanuel Jousse, sur le climat, le vin.
C'était pas tout à fait sur le climat. Et en fait, c'était une réflexion que m'inspirait la lecture du texte de Saint-Simon. Mais je reviens à Saint-Simon. Mais en fait, c'est pas tellement éloigné de la question du climat. C'est que ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit que dans ce qui vous intéresse, c'est toujours le rapport de l'homme, de l'être humain, avec des choses qui sont peut-être les plus fondamentales qui soient. Dans le texte de Saint-Simon, c'était la réaction face à la mort qui fait tomber toutes les convenances et toutes les règles fixées, qu'on croit fixées d'éternité, de la cour de Versailles. Et avec vos études sur le climat, en fait, c'est le rapport de l'homme avec ce qui est le plus fondamental, c'est-à-dire son milieu naturel et la façon dont il s'inscrit dans son milieu naturel. Et le choix de Malthus plutôt que de Marx est assez intéressant, parce que il y a aussi une sorte de peut-être de pessimisme, puisque ces données fondamentales, en fait, l'être humain est assez impuissant. Alors que si vous aviez dit je préfère Marx à Malthus, ça aurait été de dire que vous considérez que la conscience de classe ou l'action de classe serait où les rapports matériels sont plus importants, volontaires sont plus importants que le rapport aux données naturelles.
Non, je ne cacherai pas que j'ai fait un passage par un certain marxisme, et donc je garde quand même des débris tout de même. Mais bon, le marxisme, il y a certainement des fragments très importants.
Bon, même le pape le pense.
C'est dangereux, si le pape le dit, il vaut mieux faire attention. Mais en revanche, Malthus, je crois, est quand même en gros l'homme qui a à peu près tout compris, puisque, sauf qu'il a... Il a opéré la limitation des populations uniquement presque uniquement par l'alimentation, par le manque d'aliments, alors qu'en fait c'est beaucoup plus vaste. Et donc notre population fixe à une vingtaine de l'hexagone à une vingtaine de millions du 14e au début du 18e est un produit effectivement de ces opérations malthusiennes, de ces freinages permanents qui caractérisent enfin la démographie historique française. Et il faut rappeler tout de même que la démographie a été une phase très importante de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la nouvelle histoire, avec Pierre Goubert, avec l'Institut national d'études démographiques, Louis Henry, c'est-à-dire les grandes études sur la chute de la fécondité, sur la limitation par la mortalité, sur le mariage tardif. Tout cela est un peu moins à la mode maintenant. Les historiens reviennent à des choses plus historiennes, mais enfin, je crois que ça a été un grand moment de l'histoire des annales.
Et Alfred Sauvy aussi.
Alfred Sauvy, effectivement. Alors, on lui reproche évidemment d'être un peu trop nataliste maintenant, mais c'est l'une des origines. Mais enfin, je crois que les grands hommes dans l'histoire, alors c'est Goubert et c'est surtout Dupaquier, quoi, qui était un vieux marxiste, un vieux communiste, qui s'est converti à la démographie, qui gérait son institut démographique un peu comme une cellule du Parti communiste. Il n'y avait pas d'exclusion, mais enfin, c'était assez sévère quand même, il fallait payer les cotisations, enfin tout ça. Mais qui, je crois, a donné une impulsion puissante à la démographie historique et qui reste le grand homme avec Goubert. Oui.
Pierre Goubert, oui. Alors, Emmanuel Roy-Durie, il reste encore quelques minutes. Aujourd'hui, votre regard sur la France, puisque c'est une vie avec l'histoire, et vous avez quand même écrit implicitement d'ailleurs sur l'histoire de France. Votre regard sur l'histoire de France aujourd'hui, non pas politique, ça, je veux dire que c'est impossible, on ne peut pas le faire ici, mais je dirais sur l'histoire de France institutionnelle. La Ve République.
Je dirais pas que je suis gaulliste, c'est ridicule. Mais enfin, disons, je crois que ma famille n'était pas spécialement gaulliste, mais le général de Gaulle a quand même inventé un système de constitution qui est très bien adapté à ce que j'appellerais les stupidités françaises. C'est-à-dire un pays, mais enfin, j'admire mon pays, bien sûr, Je crois qu'un pays normal, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, mais à quel prix l'Allemagne, quand même, il a fallu Hitler, il a fallu je ne sais quoi encore pour qu'on arrive à une situation raisonnable, à un parlement, des partis politiques dans les parlements, des gouvernements qui durent. Et De Gaulle, ayant constaté qu'en France, ça ne marchait pas, il a pris un système un peu bâtard, un peu monarchique, et qui, pour le moment, quels que soient ses défauts, me paraît fonctionner mieux. Je me souviens toujours de Joseph Laniel en face de... C'était plus Roosevelt, c'était je ne sais plus qui, peut-être Truman, et Churchill au Obama. Ah, tiens, c'est vous, monsieur Laniel. Je pense quand même que, quelles que soient les immenses qualités de quoi de la
Mais c'est pas Daniel qu'on appelait le bœuf, je crois, non?
Oui, c'est Mauriac qui l'appelait.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Bon, c'est sans doute injuste, comme je suis du département du Calvados, donc j'apprécie Joseph Daniel, bien que mon père l'aimait pas beaucoup. Mais enfin, je crois quand même qu'on a une constitution qui n'est pas ridicule. Et que, bon, je vois qu'en Italie, il y a encore une certaine instabilité gouvernementale. L'Italie n'est pas un pays ridicule du tout. Mais enfin, je souffrais un peu de ce... À une époque où j'étais... le centriste, je ne sais quoi. Je souffrais un peu de l'image que renvoyait la France. Et il me semble qu'on a une image qui se tient mieux. Mais je crois que la France, même la Troisième République qui a ses vertus, enfin, c'est quand même cette instabilité gouvernementale nous ridiculise un peu.
Et la quatrième.
Même la troisième, je trouve que c'était quand même entre les deux guerres, les deux grandes guerres, les deux guerres mondiales, c'était vraiment une cascade de gouvernement. Churchill trouvait un ministre des Affaires étrangères, il revenait un an plus tard ou même avant.
C'était le même qui avait changé de poste. Et, tout.
et donc je trouve que je préfère quand même le système gaulliste, quels que soient les défauts du général qui avait de grandes qualités.
C'était les lundis de l'histoire, présenté aujourd'hui et proposé par Philippe Levillain, autour du livre et avec Emmanuel Leroy-Ladurie, membre de l'Institut, Une vie avec l'histoire mémoire, audition Talendier. Le texte sur Saint-Simon est lu par Jean-Pierre Leroux, la prise de son de Philippe Palares, la réalisation de Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire vous proposeront une rediffusion d'une émission de Jacques Le Goff, récemment disparu, sur le monde du XVe siècle. Et dans quelques instants, ce n'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Bon après-midi à toutes et à tous.